Bonsoir Antoine Volodine, nous avons la joie, le bonheur et l'immense honneur de vous avoir en direct pendant une heure pour toute cette émission. Nous parlons avec vous, Antoine Volodine, du livre de Lutz Bassmann, son cinquième, qui est paru dans cette rentrée littéraire de septembre aux éditions Verdier, là où sont parus les quatre autres volumes de Lutz Bassmann. Il s'appelle Black Village. Nous lisons sur le bandeau noir qui entoure cette belle couleur jaune des couvertures Verdier. Lutz Bassmann fut notre porte-parole jusqu'à la fin, la sienne et celle de tout. C'était signé Antoine Volodine dans le poste Exotisme en dit leçon 11 qui était paru il y a bientôt 20 ans aux éditions Gallimard. Nous y reviendrons. Pour présenter Black Village, pour présenter son univers post-exotique, je vais faire lecture d'une page et demie, ça se situe à la page 13 au début, dans un moment qui s'appelle Noir 2. Durant les toutes premières minutes et les premiers mois de marche dans l'espace noir, nous n'avons pas attaché grande importance à la question de la durée de notre séjour. Savoir comment se déroulait le temps était le cadet de nos soucis. Il nous fallait tout d'abord faire connaissance et nous habituer les uns aux autres. Myriam, par exemple, est longtemps restée très distante et froide. Elle s'adressait à nous avec la plus extrême prudence et sans jamais laisser paraître son désarroi. C'est qu'elle devait acquérir la certitude qu'elle ne subirait aucune attaque, sexuelle ou autre, venant des deux hommes qui l'accompagnaient, autrement dit de la part de Goodman et de moi. Et dans l'obscurité totale où nous nous trouvions, il était difficile pour elle de se faire une idée de ce que nous valions en tant que personnes. De notre vivant, nous faisions partie de la même organisation, mais nous avions travaillé dans des services différents et nous n'avions jamais eu l'occasion de faire connaissance. Elle savait qu'en tant que membre du parti, nous avions partagé les mêmes principes éthiques de fraternité et de compassion. Mais à présent que nous avions basculé tous les trois dans un monde charbonneux, flottant, imprévisible, effrayant, comment pouvait-elle être sûre que nous n'allions pas à un moment ou à un autre nous transformer en démons errants, en moines machistes ou pire encore, en je ne sais quel obsédé de la lubricité, en semi-humains gonflés de sperme agressif et géniard. J'avais moi-même été terrorisé en constatant que je n'allais pas effectuer seul cette traversée sans espérance. Je ne craignais pas de devoir me battre contre des compagnons soudains pris de folie meurtrière, car avant d'errer dans l'espace noir, j'avais tout de même acquis un bon niveau technique et il me semblait que je saurais, comme autrefois, me débrouiller en cas de combat rapproché. Mais ce que je redoutais, c'était d'avoir à subir les bavardages anxieux d'anciens collègues inaptes à la solitude, cherchant à partager leur effroi, leur souffrance morale et leur absence d'avenir. Être confronté à des logorées de panicards était ma peur principale. Je suppose que Goodman, de son côté, se méfiait lui aussi de notre solidité mentale ou morale. Il avait passé le premier mois dans un silence buté, sans jamais nous poser la moindre question après que nous lui avions fait connaître notre identité et les circonstances de notre décès. Il y a trois personnes... J'ai fini ma lecture, je précise. Il y a trois personnes, Antoine Volodine. Que se passe-t-il pour elles, au début? Et puis on verra qu'elles traversent le livre par leurs histoires.
Oui, alors d'abord, ces trois personnes sont dans le noir, d'où le titre, une allusion à cette situation, Black Village. Elles traversent un espace... temps qui est quelque chose que je mets en scène, moi, Volodine et Bassmann et Emmanuela Dreger, que nous mettons en scène assez souvent, qui est l'espace du bardo d'après le décès. Ces trois personnages, donc Tassili, Goodman et Myriam, sont décédés et, comme dans la tradition bouddhiste, traversent le bardo, marchent dans un univers bardique, un univers où les contraires s'annulent et où n'existent plus que des souvenirs, des fantasmes, des rêves qui se confondent et qui permettent évidemment de raconter beaucoup d'histoires et de faire surgir beaucoup d'images. Et ces trois personnages, peu à peu, vont raconter des histoires parce que Ils sont dans les ténèbres absolues. Ils marchent depuis ils ne savent pas combien de temps. Depuis des années peut-être, des mois, des semaines, des années, plus peut-être. Ils marchent et ils cherchent quelques repères. Ils n'ont aucun repère visuel. Et ce qu'ils inventent, c'est plutôt que de compter des pas, ce qui est fastidieux et qui conduit à rien du tout, et on se trompe toujours, ils imaginent que le récit, des récits, vont servir de mesure du temps. Alors, ils vont raconter des histoires et peu à peu, pensent-ils, au fil des semaines, des mois, au fil des récits, ils vont avoir la mémoire de ces récits et pouvoir, en somme, planter des balises de temps à l'intérieur de leur marche dans le noir. Mais Lutz Bachmann subvertit facilement les univers qu'il met en scène. Il l'a déjà fait. Et parmi les auteurs post-exotiques, c'est celui sans doute qui utilise le plus la subversion. La subversion de tout, la subversion littéraire. Et là, il invente une situation où le temps, au lieu de s'écouler de façon continue, s'interrompt de façon absolument imprévue, incompréhensible, et s'interrompt vraiment. C'est-à-dire qu'on va avoir dans tout le livre ces trois personnages qui donc marchent et qu'on va retrouver à la fin. Et dans le livre, il va y avoir les histoires qu'ils racontent, qu'ils se racontent. Et ces histoires sont systématiquement interrompues. Au lieu de produire ce que, dans la littérature post-exotique, nous appelons des narras, Lutz Bachmann invente l'interrupta, c'est-à-dire des narras qui, comme les narras poétiques ou romanesques du post-exotisme, sont des instantanés en prose, des morceaux, des fragments d'une histoire dont on peut imaginer le début et la fin, mais qui sont donc des sortes de photographies en prose. Lui, il va couper cette photographie de façon très arbitraire et donc les narras, ces photographies en prose sont mutilées, sont coupées en pleine phrase, en plein développement d'une action. Il y a beaucoup d'actions dans ces histoires. Et les personnages, Goodman, Tassili, Myriam, s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils sont en train de marcher et que l'histoire qu'ils ont racontée avant n'a servi à rien, ne peut pas fonctionner comme balise.
Ces trois personnages, Tassili, Goodman et Myriam, qui apparaissent au début, qu'on retrouve à la fin, qui sont-ils ? On imagine, par les histoires qu'ils se racontent, qu'ils ont vécu des actions terribles, que c'était homme et femme, puisque deux hommes et une femme, que c'était homme et femme d'action, qui se sont battus pour des causes.
Oui, alors justement, dans ces récits qui viennent, qui surgissent dans le livre, mais qui surgissent dans l'esprit des personnages, il y a le reflet de leur vie antérieure, de ce qu'ils ont vécu, et ce sont... On peut l'imaginer, mais c'est pas très précis. Ce sont des gens, des hommes et femmes d'action, tueurs, militants radicaux, chargés de missions, espions, des héros et une héroïne qui ont du sang sur les mains, qui ont le souvenir d'actions très violentes et politiques. Et ce qui les relie, en fait, et c'est dit dès le début du livre, c'est qu'ils ont appartenu à une, entre guillemets, organisation, à l'organisation, qui est parfois appelée le parti. Et cette organisation, c'est quelque chose qui est assez constant dans notre production post-exotique. Il y a d'autres livres qui citent cette, l'existence derrière l'action, derrière le livre, derrière de l'organisation, c'est-à-dire de quelque chose qui lutte, d'un outil de lutte contre les malheurs du monde, contre les salopards qui sont au pouvoir dans le monde, contre les responsables du malheur, et qui, la plupart du temps, sont défaits et ne connaissent que la défaite, sinon la déroute. Et ces trois personnages de Black Village appartiennent à cette vaste famille de membres d'une organisation qui veut intervenir pour que l'humanité change, pour que les régimes qui régissent l'humanité soient modifiés dans le sens de la lumière et du bonheur, et qui agissent également à un moment où tout est fichu, où l'humanité est déjà en train de s'éteindre, où l'humanité parfois est déjà pratiquement éteinte. Et c'est ces souvenirs, c'est ces fantasmes d'action, ces rêves qui nourrissent l'imaginaire des personnages et qui sont à l'origine des images qu'ils projettent dans chaque...
Une des histoires qui est racontée, il y en a une trentaine, chaque histoire concerne à chaque fois une figure. Il y a une figure, il y a un personnage, et puis il peut y avoir des interactions. Parfois, un personnage a deux histoires pour quelques-uns, notamment pour Martha Bogoumil. Parce qu'une des particularités de l'écriture dans le post-exotisme, c'est d'avoir des héros et des héroïnes, et notamment des héroïnes, pour moi qui suis un garçon, dont on peut éperdument tomber amoureux. C'est le cas de Martha Bogoumil. Je vais lire un extrait. Donc à chaque fois, c'est des textes assez courts, de quelques pages, et qui sont bien entendu, comme vous venez de l'expliquer, Antoine Volodine, coupés, interrompus par ce problème chronologique, ce problème temporel. Martha Bogoumil à présent recouvrait ses esprits. Elle n'avait pas traversé l'espace noir pour se retrouver, nue, frissonnante et souillée, dans une boutique où on faisait commerce de sang, de chair et de souffrance. Elle n'avait pas affronté l'absence de durée et l'absence de lumière pour être plantée là, une immonde plaque de caoutchouc sur les épaules, au milieu de la puanteur morale et physique des amateurs d'abattoirs. Elle avait une tâche principale à accomplir. Elle devait aller à la recherche de la chamane Gorjom qui s'était égarée dans les mondes intermédiaires, mais qui avait été signalée ici, en tout cas dans les environs, rue d'Etchud ou boulevard Barabas. Elle devait la retrouver, l'apaiser si son enfer était trop insupportable et l'aider à mourir si elle souhaitait vraiment en finir. Nous sommes dans une boutique de boucherie. Il y a un boucher, un drôle de boucher. On imagine que ça pourrait être presque dans une commune, dans une ville que nous pourrions connaître. Et va apparaître Martha Bogoumil derrière le boucher, quasiment nue, plus ou moins en loque. Et elle a une mission. Sa mission est donc de rechercher la chamane Gorjom. Et nous allons suivre quelques pages de sa venue chez le boucher. Le boucher sert ses clientes et une des clientes dit « Est-ce que vous pouvez me servir cette pièce-là de viande qui se présente derrière vous ?» C'est donc Martha Bogoumil. Le boucher dit « Attendez, pour la tuer, vous, je ferme boutique, sortez !» Il ferme la boutique et là, il a une discussion avec elle parce que nous comprenons que le boucher attend justement Martha Bogoumil pour se séparer de l'entité maléfique de la chamane Gorjom. Voici comment, en quelques pages, une histoire dans laquelle on ne connaît pas les personnages, on y est directement impliqué et on peut imaginer cette Martha Bogoumil qui évolue derrière l'étal du boucher et cette discussion en quelques pages. Voilà une des capacités de l'univers post-exotique, de faire exister une présence. Une présence qu'on n'imagine peut-être pas forcément d'ailleurs humaine. Elle peut très bien être un animal, elle peut très bien être un oiseau, c'est-à-dire une pièce à manger sur un étal de boucher.
Oui, alors en fait, Bassman, là, montre comment il réussit à créer l'image. Parce que, en fait, nous avons comme souci, tous, nous, auteurs post-exotiques, de mener les lecteurs et les lectrices dans l'immédiateté d'une image. Il y a un côté cinématographique, si vous voulez, dans notre écriture, et Bassman, ici, accumule des histoires qui sont trépidantes, qui sont des histoires d'aventure, des histoires pas forcément en noir et blanc, il y a du sang, le rouge est là. Et c'est le talent de Bassman consiste à projeter immédiatement, très rapidement, en quelques lignes, en quelques mots, le lecteur et la lectrice dans quelque chose qu'ils connaissent déjà et qui va être immédiatement quelque chose projeté dans chaque début d'histoire, les lecteurs et les lectrices à l'intérieur de l'histoire. Alors ensuite, une fois que l'image a été posée, une fois qu'elle est habitable et habitée par le lecteur et la lectrice, à ce moment-là, une anecdote se développe. Et c'est comme il s'agit d'anecdotes qui vont s'interrompre, et le lecteur, au bout de deux ou trois interruptas, sait que il va devoir être confronté à l'arrêt, à l'interruption, au noir absolu. Le film ne va plus continuer. Quelque chose qui n'est pas une frustration parce que l'image reste. Je pense que c'est cette confrontation entre image et récit, entre image et anecdote, qui n'est pas frustrante parce que au moment où le récit, le narra s'interrompt, l'image reste incrustée dans, c'est ce que nous espérons, hein, dans l'esprit du lecteur et de la lectrice. Et cette incrustation, je pense, est durable. Ce qui fait que, par exemple, cette jeune, étrange créature qu'est Martha Bogumil, qui arrive brusquement, qui apparaît, qui se matérialise dans une boucherie étrange, dans un monde étrange, elle va réapparaître dans quelques dizaines de pages plus loin, dans un narra interrupta qui s'appelle Martha Bogumil, lui aussi, Martha Bogumil 2, si je ne me trompe, et on va connaître, sans longues explications, on va connaître son passé, qui est un passé qui est très difficile d'imaginer précisément, mais l'image fait que Martha Bogumil existe déjà au moment où elle marche, cette fois-ci non plus dans une boucherie, mais à travers champs, de retour de mission.
Où là, elle va rencontrer trois femmes qui vont la faire parler sur sa mission. Parce que nous sommes dans plusieurs univers. On imagine qu'elle a été envoyée dans l'univers où elle arrive dans la boutique du boucher pour accomplir sa mission. Et puis, elle revient de sa mission un peu comme dans une sorte de voyage à la fois temporel, à la fois physique. Et là, elle est interrogée par trois créatures qui sont du parti, on va dire, qui peuvent être même des supérieurs à elle, du parti ou de l'organisation, et qui vont lui poser des questions sur son, sur les émotions, pas forcément tant sur ce qu'elle a fait que sur comment elle a ressenti l'univers du village ou de la ville où elle a été, plutôt que sur la manière dont elle a accompli sa mission. Et les questions que vont porter, par exemple, les personnages, comme il y en a une qui s'appelle odeur de soupe, par exemple, ça va être plutôt sur les sensations. Quelles sensations a-t-elle retirées du monde qu'elle a occupé là où elle a été envoyée en mission?
Oui, d'abord, elle va subir un interrogatoire qui sera interrompu. On ne va pas aller jusqu'au bout de cet interrogatoire. On ne va même pas au début. On va juste à la confrontation avec ces trois créatures, comme vous dites, qui sont trois vieilles de cauchemar, trois vieilles qui sont les seules représentantes du monde réel que Martha Bogumil rencontre pour rendre compte de sa mission. Mais sa mission, on le comprend, c'était pas seulement dans ce nara, c'était pas seulement d'éliminer une chamane, c'était aussi d'être à l'intérieur d'un monde flottant, de visiter le monde de la mort, en fait, le monde des rêves et de la mort. Elle a été envoyée par les vieilles, on va dire, par le parti, pour explorer le monde de la mort et pour effectivement raconter comment ça fait d'être mort, comment ça fait de marcher dans le bardo. C'était ça sa mission principale. Et il se trouve qu'elle revient, elle a été engrossée au cours de sa mission, et les vieilles se moquent d'elle et estiment qu'elle a failli. Elle n'a pas eu l'honneur de l'héroïne qui doit sans problème tuer et revenir. Elle a eu une vie dans cette mort qu'elle a explorée. Elle a eu une vie amoureuse, une vie conjugale sans doute, on ne sait pas. Et elle revient avec un bébé dans le ventre.
Et là, on imagine par exemple que c'est le boucher. Parce que dans le premier interrupta, il y a ce dialogue avec le boucher où elle comprend qu'il va falloir un peu qu'elle s'intègre dans cette société. Et le boucher lui fait comprendre que c'est mieux qu'elle devienne sa femme, tout simplement. Et là, vous parliez d'images que nous, lecteurs, nous faisons de ces interruptas. Et effectivement, c'est ça le prodige de Black Village, c'est que ça fait image et que nous en gardons une présence rétinienne. Mais on a envie de remplir les vides. Et en ce cas, est-ce que vous les avez remplis, les vides? Est-ce que vous avez plus écrit que ça de ces histoires? Ou est-ce que vous les avez vraiment vous-même interrompus à ce moment-là? Et puis, bon, c'est comme ça. Ou vous les avez continué à les imaginer? Parce qu'on peut imaginer aussi que Martha Bogumil, vous ne pouvez pas vous en débarrasser comme ça, aussi rapidement. Elle doit vous travailler, elle doit même continuer à vous travailler en l'ayant inventée. On imagine que Lise Bassman continue à l'avoir en sa tête et que ce n'est pas forcément si facile de s'en défaire, surtout quand on l'a créée, parce que sachant qu'en lecteur, nous lecteurs, moi par exemple, je suis presque tombé amoureux de Martha Bogumil. J'ai des souvenirs de vos héroïnes, Antoine Volodine, par exemple. Je suis tombé amoureux de Sonia Volgelan dans Soge de Mevlido, par exemple. On peut tomber amoureux de vos héroïnes. Et c'était le cas pour Martha Bogumil. Mais forcément, Lise Bassman l'ayant inventée, on peut imaginer que lui a envie d'en faire des histoires encore plus longues à son propos et n'ait pas interrompu la langue pour la lire.
C'est-à-dire que chaque histoire, chaque nara, chaque interrupta pourrait donner lieu à un roman entier. Et on pourrait développer un avant, un après. C'est comme pour tout nara d'ailleurs. Tous les naras dans la littérature post-exotique peuvent être précédés de quelque chose qui a conduit jusqu'au nara. Et en fait, il y a un problème ?
Non.
Et en fait, je crois que il y a de notre part la volonté de de laisser toute liberté au lecteur et à la lectrice pour interpréter, pour aller plus loin, pour inventer, pour imaginer quelque chose. Vous avez exprimé vos émotions par rapport à Martha Bogumil, par rapport à cette histoire-là. En ce sens, vous êtes exactement ce que nous attendons d'un lecteur du post-exotisme, d'un lecteur sympathisant du post-exotisme, c'est-à-dire pas seulement une lecture passive et pas du tout une lecture passive, mais la possibilité d'interpréter comme on interprète un morceau musical avec sa propre sensibilité, d'interpréter les textes, de les réinterpréter, de les refaire, de les refaçonner intérieurement, de les réinventer, de les poursuivre. Et c'est un exercice qui n'est pas du tout frustrant. Alors les interruptions peuvent être qualifiées de frustrantes, mais je ne pense pas, moi. Au contraire, c'est agréable de pouvoir continuer. Je me rappelle il y a très longtemps à l'école, un des exercices de création dans les compositions françaises que je préférais, c'était d'avoir une histoire qu'il fallait poursuivre.
Vous avez parlé tout à l'heure, Antoine Volodine, d'images filmées pour qualifier ces textes, ces interrupteurs. Et alors, on peut penser que ces images qui nous apparaissent comme filmées, comme des petits films, et l'inverse du noir pour Tassili, Goodman et Myriam, qui racontent ces histoires, qui sont dans le noir complet. Il faut imaginer qu'ils sont dans un noir total, même si Goodman avait quelques petites poudres qui permettaient d'avoir un peu de lumière. Donc au bout de son doigt et au bout de sa main, il a une lumière faible, faiblarde, qui permet encore plus de voir le noir profond et le noir total autour d'eux. Et il se raconte des histoires qui font image dans leur tête aussi à eux, et c'est l'objectif de ces histoires. Et c'est l'inverse exact du noir, en ce sorte que dans Black Village est pensé le film, et le film interrompu, sans cesse interrompu, des extraits, on pourrait dire des extraits de film, et le noir complet, c'est-à-dire presque le sens du cinéma.
Je pense qu'il y a différents types de prises de vue, si vous voulez, différents types même de pellicules. Et on a des images en noir et blanc et des images en couleur, des images qui sont très baroques. Vous parliez de Martha Bogumil, mais il y a d'autres personnages étranges, des femmes oiseaux. Il y en a une, par exemple, qui apparaît non pas dans une boucherie, dans l'arrière d'une boucherie, mais dans un haut fourneau et qui se prélasse un moment au milieu des flammes et du métal en fusion, contre les tuyères, et réfléchit. Elle aussi, elle est en mission, hein, bien sûr, c'est une mission magique. Et elle se déplace dans un univers là qui est extrêmement coloré, orange, rouge, chaleureux, avec des couleurs chaudes. Contrairement à d'autres séquences, on peut parler de séquences cinématographiques, d'autres séquences qui manifestement sont en noir et blanc, y compris parce qu'elles renvoient de façon volontaire et consciente au cinéma, par exemple au cinéma américain policier des années 40, noir et blanc. Il y a quatre ou cinq bandits qui se retrouvent autour d'une table en se partageant un butin, et la situation évolue très mal puisque brusquement tout se met à flotter autour d'eux et c'est très inquiétant, et ils se tirent les uns sur les autres histoire de faire quelque chose. Et là, on est dans des citations cinématographiques du cinéma américain des années 40, je pense. Et très souvent, il y a des citations d'images qui me sont familières, mais qui devraient être familières aussi à beaucoup de lecteurs et de lectrices. Il ne s'agit pas du tout de renvoi à tel ou tel titre cinématographique, à tel ou tel film, mais certaines scènes renvoient, certaines séquences renvoient au cinéma soviétique en noir et blanc, ou au cinéma d'action, d'arts martiaux japonais ou chinois. Et je pense que cette culture de l'image, cette culture cinématographique, cinéphilique, elle se partage entre nos lecteurs et nous.
Oui, ça me fait penser à une scène qui m'a beaucoup surprise, où il y a, c'est dans le passage sur le personnage qui s'appelle Kirkovian, ou Kirkovian, qui est un chirurgien. Et ce chirurgien est cherché par une infirmière, et lui dit, mais c'est pourquoi ? C'est pour un accouchement. Et elle lui dit, non, c'est pour un blessé grave, et puis on ne sait pas trop comment le soigner, parce que Paula Giannakis, qui est l'infirmière, lui dit, le blessé ne ressemble à rien. Bah, on a l'habitude, plaisante à Kirkovian, un accident industriel, un motard, un alien, dit Paula Giannakis. Je repense vraiment à ça parce que l'alien auquel je suis, une figure auquel je suis plutôt sensible, j'ai trouvé qu'il y en avait, que dans l'univers post-exotisme, l'alien ou l'extraterrestre est plutôt absent. Peut-être est-ce la première mention d'extraterrestre ou... Bon, je n'ai pas lu tous les livres, mais
pas du tout,
il y en a peut-être assez peu, non ou c'est...
Pas du tout, mais... En fait, on pourrait presque dire que tous les personnages post-exotiques sont des aliens. Hein. Je pense simplement l'alien tel qu'on le voit dans le film, dans la série de Alien, c'est quelque chose qui nous est étranger, cette espèce de monstre bestiole qui détruit tout autour d'elle, qui s'attaque aux humains. En revanche, il y a de la monstruosité dans ce personnage, par exemple, d'oiseaux. Il y a beaucoup d'oiseaux humains qui sont derrière des fenêtres, qui agissent, qui donc apparaissent au milieu des hauts fourneaux éventuellement. Et ce sont des créatures que je ne vais pas nommer, dont je ne vais pas dire le statut. Ce sont des créatures étranges, des créatures de rêve, des créatures fantastiques, des créatures, on peut dire, extraterrestres, extraordinaires. Mais ce qui intéresse la science-fiction, c'est-à-dire une description immédiate des caractéristiques physiques, ne nous intéresse pas, n'intéresse pas Bassman. Ce que lui va choisir dans ses descriptions, c'est au contraire la beauté, le fait que cette créature qui apparaît est nue, couverte de duvet. On aurait du mal à se la représenter, on aurait du mal à la peindre ou à faire un collage pour trouver à quoi elle ressemble. Mais intérieurement, elle provoque une émotion, et c'est à cause de cette émotion que vous avez une émotion amoureuse par rapport à ces personnages oiseaux qui ne sont pas humains, mais qui ont un comportement totalement humain, des sentiments totalement humains, peuvent être des envoyés de on ne sait où. Ce que développerait la science-fiction et ce que nous ne développons pas, parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de les mettre en situation de justicier, de meurtriers, de victimes.
Néanmoins, là, explicitement utiliser le terme d'extraterrestre pour, dans cet interrupta justement, sur ce chirurgien, le terme d'extraterrestre est vraiment explicitement utilisé. Je suis tout à fait en accord avec tout ce que vous venez d'expliquer, que ces créatures, effectivement, pourraient très, très bien être des extraterrestres. Mais néanmoins, j'avais l'impression que jusqu'ici, ce n'était pas nommé de manière aussi explicite que ce passage où, pour les contacts chirurgicaux avec les extraterrestres, le protocole exigeait de porter des espèces de scaphandres ridicules. Là, est nommé extraterrestre, c'était la première fois que c'est nommé ? Vous avez déjà utilisé ce terme ?
Je pense que j'ai déjà utilisé ce terme. Il n'est pas du tout tabou. Et simplement, c'est une situation parmi d'autres. Et ce qui est intéressant dans cet interrupta, c'est que le protocole dont il est question pour opérer un blessé extraterrestre ne peut pas être observé parce que les militaires prennent immédiatement les choses en main.
Et ça peut faire. Ça peut être une image de science-fiction, de film de science-fiction.
Complètement une image de science-fiction. Oui, bien sûr.
Antoine Volodine, je voulais vous poser la question de la manière dont le post-exotisme se représente le futur. Chacun des interrupta est donc un récit coupé. Il y a donc une vision tronquée de l'action à venir. Et donc le futur, on pourrait imaginer que ce futur est sans cesse interrompu. Sachant que les trois personnages, Tassili, Goodman et Myriam, évoluent dans un monde quasiment intemporel où ils ne savent pas si ils sont partis depuis plusieurs jours ou depuis plusieurs années. Le temps a vraiment considérablement du mal à s'écouler de notre manière intuitive dont nous le connaissons. Et c'est aussi pour cela qu'ils se racontent des histoires pour essayer de marquer le temps. Or, j'ai l'impression que, et c'est une intuition que je peux avoir, et je voulais vous questionner là-dessus, sur le post-exotisme, qui aurait, non pas un problème avec le futur, mais qui serait peut-être davantage tourné sur un temps du passé, sur peut-être une mémoire du passé, plutôt que sur sans cesse un avenir qui arriverait, et nous aurions dans ces cas-là, dans Black Village, un exemple concret de ce que, du problème que pourrait rencontrer le post-exotisme vis-à-vis du futur.
Tout à l'heure, j'ai parlé du bardo et de la marche dans le bardo, le monde d'après le décès, et de ce qui se passait pendant cette marche. Ce qui se passe pendant cette marche, c'est une permanente illusion qui est construite sur les souvenirs, les fantasmes, des inventions, des fragments qui viennent du passé toujours. Et cette construction de l'imaginaire, très riche, très baroque, se fait à partir d'éléments qui sont sentis comme ceux de l'expérience passée. C'est pourquoi on a si souvent dans ces histoires, des histoires de lutte, de fractions à l'intérieur du parti par exemple, ou des histoires de liquidation, de meurtre, des missions liées à des exécutions, à des recherches, le tout étant accompagné d'une réflexion sur l'état de l'humanité et qui est un état très misérable. Alors simplement dans les livres de Bassmann comme dans tous nos livres, il y a une part de l'imaginaire qui est gigantesque, mais les personnages vivent la situation, vivent leur situation dans un présent et qui se réfère au passé. Et le futur, c'est une donnée qui n'est pas, qui échappe totalement au personnage. C'est pas une projection de leurs réflexions sur l'avenir. Non, le futur, c'est le présent dans lequel vivent les personnages, soit par fantasme, soit parce que c'est la situation qui est décrite dès la première page dans nos livres. Par exemple, dans Terminus Radieux, les personnages sont dans une steppe irradiée, dans une taïga irradiée, dans une Sibérie totalement irradiée non pas par suite d'une guerre nucléaire, mais par suite d'une flopée d'accidents industriels. Et les personnages vivent cela comme un présent, et notre projection dans le futur, c'est mettre des personnages dans un décor qui est celui, la plupart du temps, de la fin de l'humanité, de l'extinction des espèces, de l'extinction de l'espèce humaine, de la planète ravagée, des ruines suite aux guerres. Mais ça n'est pas une réflexion sur les guerres, sur la destruction à venir. C'est une visite qui n'a rien à voir justement avec le fonctionnement de la science-fiction. C'est une visite du présent, et ce présent qui est une vision apocalyptique de ce qui va venir n'est pas du tout construit sur autre chose que du passé, des briques, des éléments qui viennent du passé. Tout ce que, dans Terminus Radieux, par exemple, tout ce qui est présenté vient d'une réflexion que l'auteur a sur les accidents nucléaires industriels, sur la politique, sur les choix politiques catastrophiques des humains. Mais c'est pas ça qui est décrit. Ce qui est décrit, c'est les personnages dans ces situations, et nous n'avons pas l'ambition de décrire un monde apocalyptique ou post-apocalyptique. Nous décrivons avant tout des personnages dans des situations qui sont des situations totalement imaginaires, des situations fantasmées, mais qui ne peuvent s'expliquer que par la connaissance que nous avons. Et quand je dis nous, je pense aux lecteurs, aux lectrices et aux auteurs post-exotiques, que nous avons de l'expérience malheureuse de l'humanité au XXe siècle et aujourd'hui.
Terminus Radieux a été publié aux éditions du Seuil sous votre nom, Antoine Volodine, en 2014. Et dès les premières pages, je vais citer cette anecdote. 2 mois plus tôt, une éternité. La chute annoncée de l'Orbise, c'est une sorte d'organisation en fait, comme le parti, la chute annoncée de l'Orbise avait eu lieu, immédiatement suivie de l'exode et d'une totale absence d'avenir.
Oui, on est exactement
dans ce que je viens de dedans. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup penser, cette relation contrariée qu'aurait le post-exotisme, les auteurs post-exotiques vis-à-vis du futur. Pas seulement les personnages qui sont impliqués, mais l'ensemble de l'édifice post-exotique qui se couperait. Du coup, c'est quelque chose qui m'obsède, qui se couperait de la possibilité d'un espoir futur qui serait totalement, complètement absent. C'est-à-dire que de même que dans Black Village, les trois personnages, Tassili, Goodman et Myriam, évoluent dans un monde noir et achronologique, eh bien, il y a obligation d'un non-futur, d'un futur inexistant qui serait constamment un présent perpétuel.
Oui, je reprends ce que j'ai dit. Il s'agit bien toujours, dans roman après roman, quel que soit l'auteur, de montrer ce présent qui est perpétuel et qui ne peut pas être dépassé parce qu'il est construit sur un passé qui est catastrophique, qui est animé par les visions ineffaçables des guerres, des révolutions ratées, de la Shoah, des guerres nucléaires en gestation aujourd'hui, par exemple, de la guerre froide, tout ce qui, en fait, est la mort, non plus annoncée, mais la mort effective de l'humanisme qui a eu lieu au XXe siècle, qui continue qui entraîne l'humanité dans un bardo de présent, justement, construit sur le passé et sans avenir.
Qui serait alors la prise en charge d'un héritage, la prise en charge de l'héritage humain, c'est-à-dire la prise en charge de la totalité de l'héritage humain du XXe siècle par le post-exotisme?
Oui, il y a cet héritage historique lourdissime qui pèse sur toutes nos réflexions, sur la création des personnages, sur les actions décrites par les personnages. Et évidemment, sur leurs rêves, puisque l'ensemble des livres, l'ensemble des histoires, des situations, des séquences est une description du présent de l'action, écrite à partir du passé humain et beaucoup plus large que le passé simplement des personnages, passé individuel. Et ce passé ne peut pas être dépassé parce que la Shoah a eu lieu, parce que Auschwitz, parce que Hiroshima, parce que Fukushima, Tchernobyl.
Et
parce que aussi la chute de l'URSS, la chute de tous les espoirs révolutionnaires.
Dans Black Village, apparaissent en filigrane une population, c'est les Ibures, Y-B-U, accent tréma R-S. Ils apparaissent à plein de passages, à plein de moments. C'est quelque chose qui... On imagine que c'est une population qui a été exterminée. C'est dit en filigrane. Ils apparaissent vraiment vraiment au recoin d'une phrase. Parfois, juste un léger paragraphe leur est consacré. Et c'est-à-dire, il y a volonté de faire mémoire des Ibures.
Oui, parce qu'il s'agit d'une part de parler des Ibures comme d'une population disparue ou en disparition, comme d'autres. Mais en même temps, les Ibures n'apparaissent pas tout seuls comme ça. Il est toujours question de l'extermination des Ibures, de la seconde extermination des Ibures, de la troisième extermination des Ibures. C'est-à-dire que les Ibures, c'est la figure même du peuple pourchassé et détruit.
Oui, apparaissent aussi, à un moment donné, une légende, la légende du macareux étrange. Quelque chose qui... C'est tellement peu développé que ça fait effectivement image dans nos têtes, ça fait appel à notre imaginaire, justement parce que c'est coupé, parce que c'est interrompu, parce qu'on n'a pas l'histoire dans son entièreté. Je vais vous lire. « Un macareux étrange, comme il y en avait autrefois dans les légendes des Ibures, une créature à la fonction mal définie, qui apparaissait et disparaissait sans véritablement apporter un réconfort à ceux et celles qui en auraient eu besoin. » Qui apparaissait au moment du naufrage mental ou de la mort. Quelques pages plus loin, voici ce que nous trouvons à nouveau sur le macareux étrange. Néanmoins, on pouvait à présent avoir une idée plus précise de ce à quoi ressemblait un macareux étrange, non pas tel que l'avaient décrit des légendes ibures, mais tel qu'il était dans la réalité, avec un manteau de clochard qui cachait mal un maillot de corps et un pantalon rapiécé, et là-dessus une stature de bûcheron, un bec d'alcoolique et des plumes dépeignées. Plutôt la représentation de la déchéance qu'une figure fantastique de sauveur.
Oui, ce que Nous essayons de faire, Bassman en premier lieu, Manuela Dreger, moi, Volodine en deuxième lieu, c'est de raconter des histoires, mais derrière lesquelles il y a quelque chose toujours. Il y a donc derrière les réflexions des personnages, derrière les rêves des personnages, derrière, il y a une culture qui est imaginaire, mais qui est parfois nommée, dont on voit des tout petits extraits qui sont naturels. L'histoire des macareuses étranges, ça renvoie à une légende qui est parfaitement naturelle pour le narrateur, qu'il ne développe pas. De même, très souvent, il est fait allusion à des compositeurs, des écrivains, des acteurs divers qui n'ont pas existé, mais qui ont, enfin qui n'ont pas existé, qui existent dans la culture en amont des livres, en amont de ce que se représentent les personnages. On est dans une littérature qui est totalement coupée du reste de la littérature, qui se réclame d'un héritage, certes, d'un héritage littéraire, mais qui a du mal à se situer de façon nommée dans l'héritage culturel contemporain, et qui s'invente des relations avec une musique, une littérature, une poésie qui sont chères au cœur des personnages, de nos personnages, mais qui ne sont pas immédiatement perceptibles pour le lecteur et la lectrice. Et à ce moment-là, lecteurs et lectrices ont la possibilité d'interpréter et de renvoyer à leur propre conscience, à leur propre univers culturel. Et lorsqu'il est question de poètes imaginaires, nommés, éventuellement de se représenter ce que Khlebnikov, par exemple, peut donner.
Voilà. Merci beaucoup, Antoine Volodine, d'être venu nous voir dans le studio de Radio Campus pour nous parler de Black Village, de Lutz Bassman. C'est aux éditions Verdier, ça se trouve actuellement en librairie, et bien entendu vos livres. Nous parlions tout à l'heure de Terminus Radieux, qui avait reçu en 2014 le prix Médicis.